cours de philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, 6 octobre 1989, deuxième cours.
Y a-t-il des questions par rapport au cours de tout à l'heure? Alors, je continue. Je fais ça chaque fois, quand les deux cours se suivent, on peut poser les questions à chaud, c'est mieux. Donc, possible, oui.
Est-ce que les deux contraires dont vous avez parlé dans le mouvement, c'est la forme et l'indétermination, ou c'est autre chose?
Non, l'indétermination, les deux contraires sont positifs. Vous voyez, dans les oppositions qu'Aristote donne, qui sont classiques, et qui sont les oppositions tout simples, il montre la contradiction. Ça, il faut savoir ça par cœur. Ça fait partie de cette année. Il faut savoir par cœur, en le comprenant, vous voyez. Il faut savoir ça par cœur. Quelles sont les oppositions devant lesquelles nous nous trouvons? Donc, qui impliquent des divisions. Des oppositions qui impliquent des divisions. Comme toujours. Dès qu'on est opposé, il y a une division. Première. L'opposition la plus farouche, la plus totale, la contradiction. Ceci est, ceci n'est pas. La négation, toute opposition implique une négation. La négation détruit tout ce que l'autre affirme. Ceci est, ceci n'est pas. Quand vous dites ceci n'est pas, vous détruisez complètement ceci est. Il ne reste rien. Bulldozer. Intellectuel. Il a tout ramassé. C'est la contradiction. Il n'y a pas de sujet intermédiaire. Ça s'oppose. C'est contradictoire. Quand vous dites c'est contradictoire, c'est au niveau de l'être. Opposition de privation. Non plus au niveau de l'être, de ce qui est. C'est l'opposition entre la possession et la négation de possession. La privation. Au niveau de la forme. Voir, ne pas voir. Je suis aveugle. La privation de la vision, de la capacité de voir. La vertu. Hein, on dira tout de suite, et le vice, non? La vertu et le vice, c'est des contraires. Pas avoir de vertu. L'habitus, c'est le non-habitus. Alors, vous voyez, entre possession et privation, entre avoir, c'est le niveau d'avoir, et ne pas avoir. Ne pas avoir une qualité qui nous est naturelle. Ne pas avoir d'aile. Je n'ai pas d'aile. J'ai oublié mes ailes. Pas une privation. Pour un être humain, ne pas avoir d'aile, c'est pas une privation.
Pour les yeux, la taupe. La taupe et...
Oui. Pour la taupe. Là, c'est différent. Mais je suis pas une taupe. Et non, oui. Et le non avoir. Oui, l'habitus. Et le non habitus. La capacité de connaître, pas connaître. Seconde opposition. Troisième opposition. Et la contrariété. Les contraires. Alors, c'est deux positifs. Tandis qu'ici, c'était positif et négatif. Là aussi, positif et négatif. Et la négation va jusqu'à l'être. Tandis que là, la négation
touche.
Uniquement la forme que je suis capable de posséder. La contrariété, c'est deux formes qui ne peuvent pas habiter simultanément le même sujet. Vertu et vice. On ne peut pas habiter en même temps. Je répète, en même temps. Vertueux et vicieux. Heureusement. Deux contraires. Vous ne pouvez pas en même temps être froid et chaud. Deux contraires. Donc, il y a un sujet commun. Un sujet commun. Là aussi, un sujet commun. C'est sûr. Là, il n'y a pas de sujet. C'est radical. La contrariété supprime le sujet. Quatrième opposition, la relation relative à l'intérieur de la relation. Deux amis. Deux amis sont relatifs l'un par rapport à l'autre. C'est plus au sens strict une opposition. Vous voyez, puisqu'ils sont relatifs, ils s'appellent l'un l'autre. C'est autre chose. Quand on dit opposition relative, pour bien montrer qu'ils ne sont pas un, ils sont deux. Alors, qu'est-ce qui est commun? C'est la mise en commun. C'est le fondement. Le fondement. Voilà les quatre oppositions. Aristote donne ça dans les catégories, en logique. Je crois que c'est très vrai. Je ne crois pas qu'on puisse changer ça. Dans une philosophie réaliste, je ne crois pas qu'on puisse changer. Secouer ça dans tous les sens. Et voyez. Alors vous voyez l'erreur de Hegel. La confusion, c'est que Hegel ne distingue plus entre contradiction et contrariété, et même relation. C'est peut-être l'erreur fondamentale de la dialectique, de ne plus distinguer ces diverses oppositions. Et toutes ces oppositions implique une division. Mais la division porte sur des domaines très différents. L'être, la forme, le sujet capable de contraire. Le fondement. Vous voyez tout de suite, contrariété.
Dans les mouvements artificiels, c'est l'opposition des relations qui
prend. Oui. C'est pas la même opposition. Vous voyez, la matière possédera telle forme, puis elle possédera une nouvelle forme. C'est pas le point de vue de la contrariété, c'est plus le point de vue de la privation. Au sens propre. Et c'est pas tout à fait la privation, c'est encore une forme un petit peu différente. Il y a le point de vue de la relation. C'est vrai, c'est peut-être la relation qui serait le propre à dire. Le bois, comme bois, est capable d'être brûlé. Il demeure toujours le bois, même dans la statue. La statue implique une forme nouvelle. Et cette forme artificielle ne s'oppose pas à la forme naturelle, elle la transforme. Alors, c'est une opposition qui fait appel à quelque chose de distinct. Elle n'est pas naturelle. Ah, c'est une opposition naturelle. Oui, alors, il y a quelque chose de ces diverses oppositions qui est présent. Quelle opposition mettez-vous entre une planche et une statue? Une statue de bois et une planche de bois. Quelque chose de commun, c'est le bois. Il se distingue du côté des formes. c'est pas une forme qui est naturellement dans le bois. Le bois n'est pas naturellement statue. Mais quand on était gosse et qu'on voyait les nouilles ou les macaronis, on demandait d'où ça vient. On dit que ça pousse. C'est bon. Comme une statue. Ça pousse. Mais une statue. Puis ça pousse tout seul. Et c'est très calé cette distinction. C'est la distinction entre une œuvre d'art et une œuvre naturelle. Ça a l'air de rien, mais enfin c'est quand même ça. C'est quand même très intéressant de poser cette question. Est-ce que les macaronis ça pousse? Non, les macaronis sont faits pour être mangés, pas pour être mis en terre. Tandis qu'une semence, quand vous mangez des fèves, ça germe au-dedans de nous. Étant donné que la physique contemporaine existe, on doit, dès le point de départ, montrer que la philosophie de la nature est distincte totalement de la physique. Pourquoi ? Je la pose en premier lieu à partir de ma philosophie de l'art. En second lieu, je la pose par rapport à la recherche de l'homme. Toute la philosophie s'intéresse à l'homme. Or, le corps de l'homme doit être étudié philosophiquement. Qu'est-ce que c'est que le corps de l'homme ? Bon, c'est un corps vivant, c'est sûr, grâce à l'âme. Mais c'est aussi un corps corruptible. Si l'âme est fatiguée, ça arrive, hein. Quand l'âme est fatiguée, quand vous êtes triste, vous attrapez beaucoup plus facilement les rhumes. C'est évident. Quand l'âme est fatiguée, quand le corps est fatigué, il redevient dépendant de tout le cycle physique. Quand vous êtes pleinement vivant, vous êtes indépendant, vous avez des défenses. Si vous avez attrapé une maladie, il y a eu une fragilité. Vous êtes mis dans le contexte d'un pont-levis qui s'est levé parce que vous étiez fatigué. Alors, les virus sont pénétrés. Si on pouvait voir ça, oui, ce serait très beau. Comment la fragilité du vivant parce qu'il est fatigué. Alors il est beaucoup plus apte à recevoir toutes les influences de l'extérieur. Le grand vivant crée autour de lui un milieu. Le petit vivant a besoin d'une cloche pour ne pas être contaminé. Et ainsi de suite, vous voyez. Le vivant, qui est l'homme, dépend du monde physique. Il a un corps. Et ce corps, il faut savoir ce qu'il est, philosophiquement parlant. Donc vous voyez deux raisons pour lesquelles je suis obligé d'étudier la philosophie de la nature. Et j'aime dire philosophie de la matière. Vous voyez pourquoi ? Puisque c'est par le point de vue de l'art, de la philosophie de l'art, que j'aborde ce monde physique. Or, j'aborde le monde physique comme ce qui est présupposé à l'art. Et tout ce qui est présupposé à l'art est matière. Par là, je peux répondre beaucoup plus immédiatement à l'idéologie marxiste. L'idéologie marxiste aime la physique d'Aristote. Pas l'oublier. Il n'aime pas beaucoup la métaphysique, mais la physique d'Aristote, il l'aime beaucoup. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons appeler la philosophie de la nature, parce que le mot nature n'a plus aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. Et même, il y a des tas de confusions. Je c'est bien pour la matière aussi. Et c'est peut-être plus radical d'appeler la philosophie de la matière. Et dans la philosophie de la matière, arriver à discerner ce qu'est la nature. C'est une question de mots. Mais on pourrait mettre comme ça, philosophie de la matière, entre parenthèses, philosophie de la nature. Je veux bien. J'aime bien dire philosophie de la matière, parce que cette philosophie, elle est fondamentale. À sa manière, elle est première. Elle est première fondamentalement. Et elle conditionne, c'est ça qui est extraordinaire, comme tout fondement, elle conditionne toute ma connaissance spéculative. Je ne dis pas détermine, mais conditionne. C'est cela que Gilson n'a pas très bien vu. Alors, je vous rappelle ça tout de suite parce que c'est quand même important pour nous de comprendre qu'elle conditionne toute notre philosophie spéculative et qu'elle ne la détermine pas. Distinction de la philosophie de la nature d'Aristote d'une manière classique, traditionnelle, c'est la distinction de la nature forme et la nature matière. On dira couramment forme et les formes. Gilson dit que la grande distinction de la philosophie aristotélicienne, c'est la matière et la forme. Et là, je ne distingue plus avec Platon. La grande distinction de la philosophie de Platon, c'est matière et forme. C'est sûr. La matière a un sens très différent chez Platon et chez Aristote, mais c'est ça la grande distinction. Or, cette distinction est juste par rapport à ce qui est. Tandis que ce qui est, regardez en tant qu'être, ce n'est plus matière et forme. C'est substance et accident. C'est acte et puissance. À dire que la grande distinction de la philosophie d'Aristote, c'est matière et forme. Je peux dire que cette distinction joue un rôle très important pour sa philosophie de la nature. Et comme la philosophie de la nature est dépassée par la philosophie première, ce qu'on a appelé métaphysique, la distinction de ce qui est en tant qu'être et dépasse la distinction forme et matière. Je peux dire qu'il y a une certaine analogie entre la distinction matière et forme, substance accident, acte, forme. Une certaine analogie. Mais c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, je ne peux pas dire ça. Et à la suite de Gilson, tout le monde le répète. Tout le monde répète que la grande distinction de la philosophie aristotélicienne, c'est matière et forme. Et on le dit même de saint Thomas. Ce qui n'est pas vrai du tout. La distinction matière et forme joue un rôle capital pour tout ce qui est bu. Tout ce qui implique un devenir. On l'applique même au sacrement. Matière et forme. En tant que les sacrements ne sont pas l'être et impliquent un devenir. Alors comme ça implique un devenir, c'est vrai, analogiquement. Mais dès que je suis au niveau de l'être, la distinction de la matière et forme est complètement dépassée. Et à ce moment-là, J'ai deux distinctions. Substance, acte, accident. Substance, accident, acte, puissance. Oui, alors, la substance est analogue à la forme et l'acte est analogue à la forme. L'accident est analogue à la matière et la substance et la puissance est analogue à la matière. Très amusant, ça, comme analogie. Cause formelle, cause matérielle. Cause finale qui assume la cause formelle et la cause matérielle. Vous voyez ? Cause formelle, c'est ce qu'on appelle cause matérielle. La substance, cause formelle. L'accident, cause matérielle. L'acte, cause finale, qui assume la cause formelle, la puissance, cause matérielle. Vous voyez où joue l'analogie ? L'analogie joue au niveau des causalités, parce que c'est une analyse. Mais c'est tout à fait différent. Distinguer ce qui est mu en forme et matière, c'est autre chose, mais tout à fait autre, que la distinction substance et accident, que acte et puissance. C'est pour ça que c'est très important de bien comprendre que la philosophie d'Aristote, au niveau de ce qui est mu, implique la distinction matière et forme, mais au niveau de l'être, c'est dépassé. Alors voyez bien, pour nous, dans le monde d'aujourd'hui, je ne peux pas abandonner la philosophie de la nature d'Aristote. Je dois la repenser. Complètement. Je dois la repenser. Et je verrai qu'est-ce que je peux garder de cette philosophie. Je mettrai ça en note. C'est en note. On fait une philosophie de la matière pour elle-même. On fait une philosophie de la nature pour elle-même. Parce que j'ai une expérience du devenir. L'artiste l'a très fort. Surtout l'artisan, l'expérience du bois. Alors n'oubliez pas aussi, à titre indicatif, que le mot houlé, c'est matière et c'est bois. C'est intéressant parce que ça montre très bien comment c'est l'artisan qui a le sens de la matière. Et parce qu'il a le sens de la matière, il veut savoir ce qu'elle est. C'est pour ça que, psychologiquement parlant, quand vous commencez à perdre pied, à marcher un peu du chapeau, ça arrive assez facilement, hein, quand on est enfermé dans une serre. Alors, on marche du chapeau. À ce moment-là, reprenez un métier d'artisan. Faites la cuisine. Vous savez que la matière, ça brûle. Et qu'il faut que ça cuise à tel moment, mais il ne faut pas le laisser indéfiniment. Ça brûlera. Faites un métier de menuisier. Faites de la sculpture. Et ça nous remet en présence de la matière. Et la matière, c'est ce qui condamne l'idéalisme. Parce que la matière existe. Et donc, l'idéalisme ne peut pas être une philosophie complète. Elle télescope la matière. Donc, je commence la philosophie de la matière à partir de l'art. Et de l'art artisanal, surtout. Deuxièmement, puisque la philosophie s'intéresse à l'homme, l'homme a un corps qui conditionne toute sa vie. ma vie est conditionnée par mon corps. Si donc je ne regarde plus ce que c'est que le corps, je ne comprendrai plus rien du tout à ma vie humaine. Parce que tout le conditionnement de ma vie humaine, je le télescoperai. Jusque dans la contemplation. Mon corps est présent dans ma contemplation. Comme conditionnement de mon devenir humain, de mon devenir intellectuel. C'est pour ça que c'est si important d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la matière. Je ne peux pas, si je ne me pose pas la question qu'est-ce que c'est que la matière, avoir une philosophie du corps. Vous savez que le Saint-Père a demandé aux philosophes de faire une philosophie du corps. Donc, de se pencher d'abord sur la matière. Nous verrons à quel moment le corps humain intervient dans ma philosophie de la matière. C'est très intéressant, ça. L'émergence du corps humain. Du corps comme corps, pas du corps vivant. Ça, c'est la philosophie du vivant. Et vous comprenez que je ne peux pas étudier vraiment le corps humain vivant si je n'étudie pas ce que c'est que la matière. Alors, une fois que j'ai vu cette importance pour moi d'étudier ce que c'est que la philosophie de la matière, je vois tout de suite aussi que la physique contemporaine, si intéressante qu'elle soit, n'intervient jamais dans ma philosophie de la matière. Contrairement à ce que certains disent, qu'il faut nécessairement passer par la philosophie, contemporaine, pour savoir ce que c'est que la philosophie de la matière. Pas du tout. C'est le même problème qu'Aristote s'était posé. Est-ce que les mathématiques sont nécessaires pour arriver à la philosophie première? Pour Platon, c'est nécessaire. Pour Aristote, non. Là encore, hein. Posons bien le problème, parce que c'est important dans notre monde d'aujourd'hui. Pour Platon, il y a le monde physique, le monde mathématique, le monde philosophique. Le monde physique, les sensations. Celui qui est dans la caverne, les sensations. Je vous vois, vous me voyez. Je vois les arbres. Le monde de la sensation. Le monde du pantare. Tout cool, tout cool. Donc tu devires. Ce monde est commandé par la matière. Causalité errante. Qui dit causalité errante, dit causalité inintelligible. Le hasard. Provient de la matière. Partout où il y a la matière, il peut y avoir du hasard. Partout où il y a de la matière, ça peut craquer. Le monde mathématique, c'est le monde des formes. Des formes particulières. C'est pas les formes en soi. Des formes liées à la quantité. Le monde des mathématiques, le monde, pour Platon, en vue de la vraie science qui est la philosophie. Parce que c'est encore un monde d'hypothèses. Platon a très bien saisi. C'est un monde de possibles. Passer par là, donc on fait une station, on s'arrête dans le domaine des mathématiques, pour arriver au domaine de la philosophie, qui est le domaine des formes en soi. C'est les formes liées à la quantité. Ce n'est pas les formes sensibles, c'est les formes liées à la quantité. Formes en soi, l'arbre. ça, c'est le domaine de ce qui est. Tout ce qui est en dessous de l'âme, inférieur à l'âme, au sens platonicien, est corruptible. Sauf les mathématiques. Les mathématiques, c'est dans le domaine du corruptible et incorruptible. C'est la noblesse des mathématiques. Les mathématiques touchent quelque chose d'incorruptible. Les mathématiques ne sont pas objets de corruptibilité. Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est très curieux. Hein. Le domaine des formes en soi, c'est le domaine du divin. Tandis que tout ce qui est sublunaire, c'est le domaine de la corruption. Et le domaine mathématique, ce n'est pas un domaine divin. Et c'est pourtant incorruptible. Donc quand je dis que le divin, c'est l'incorruptible, c'est pas tout à fait vrai. Chez Platon. Puisque le domaine des mathématiques, c'est incorruptible. Donc ça, c'est le petit schéma platonicien. Pour Aristote.
L'expérience sensible, ce lieu, ce qui se veut, ce qui est curieux. Les mathématiques sont mises en dehors. Qu'est-ce qui va prendre la place des mathématiques ? Philosophie du vivant. La philosophie du vivant est comme un métaxu par lequel il faut passer pour aboutir à la philosophie première. Pourquoi ? Parce que la philosophie du vivant va mettre en face une loupe. Et pour étudier le nous, il faut regarder ce qui est en tant que. Et le nous est séparé, tandis que tout ce qui est en dessous du nous est lié au corps. Aristote, c'est net. Les mathématiques n'interviennent pas dans ma connaissance philosophique. Pourquoi ? Face à Platon, c'est très audacieux. C'est très audacieux, c'est plus qu'Aristote. Dans le livre nu des métaphysiques, le livre non commenté par saint Thomas. Aristote dit ça avec beaucoup de force. Pourquoi ? Parce que la philosophie reste toujours liée à l'homme. La philosophie recherche toujours les quatre causes. Or, dans les mathématiques, pas de causalité finale. Puisque les mathématiques ne peuvent pas atteindre le bien. Le bien. Les mathématiques atteignent le haut. Et non pas le bien. L'harmonie, la proportion. Donc vous voyez, ça c'est très important. Si la science physique moderne est en dépendance des mathématiques, elle ne peut plus être rivale de la philosophie de la nature. Dans notre monde. Et dans la philosophie de la nature, il y a le vivant, l'homme. L'homme apparaît ici, de manière sexuelle. Tandis qu'Aristote ne dit pas que la philosophie de ce qui est mu, c'est la philosophie du corps. C'est la philosophie de l'organisme. On intègre comment ? C'est sûr. C'est l'âme qui intéresse Aristote dans la philosophie du vivant, pas le corps. Le corps, oui, pas accidentellement. Le corps intervient essentiellement. Et si le corps intervient essentiellement dans la philosophie du vivant, le corps est présent dans la philosophie de ce qui est mu. Mais Aristote ne l'explicite pas. Et nous devons l'expliciter. Nous devons comprendre que la philosophie de ce qui est mieux pour nous est nécessaire parce que je dois connaître le corps de l'homme. Et le corps de l'homme implique la matière. Parce que le corps de l'homme est corruptible. C'est pour ça qu'on a besoin du médecin. Si le corps de l'homme était incorruptible, on n'aurait pas besoin de médecin, il n'y aurait pas d'art. Voyez comme Dieu est bon. Il permet l'art médical en laissant l'orgueil. Mais comme Dieu a voulu que l'univers physique ne soit pas parfait pour laisser à l'homme la place d'être un artiste et de compléter. Le corps de l'homme est un corps maladif. Et parce qu'il est maladif, il faut qu'il ait des médecins. Des artistes du corps, à l'égard de la santé du corps. Il faut comprendre ça. La deuxième, c'est pas dans le premier projet de Dieu. Dieu vient de ça. Oui, et Dieu va se servir, Dieu va se servir des conséquences du péché qui font que le corps devient corruptible pour que la grandeur des œuvres de l'homme soit manifestée. Philosophiquement, je peux le dire, pour que l'art médical existe. Curieux, ces choses-là. Mais c'est très intéressant par ça. Pour que l'art médical existe. L'art médical n'existera que grâce au péché. Comme la psychologie, mais d'une autre manière. Parce que l'art médical reste objectif, la psychologie elle est moins objective. Et puis la psychologie a besoin. Alors est-ce que l'art médical a besoin d'être un art médical chrétien ? Pour saisir le défaut premier du déséquilibre humain, ne faut-il pas regarder les conséquences du péché originel ? Ça, c'est une bombe. L'art médical ne peut être parfaitement art médical que s'il est chrétien. Parce que seul le médecin chrétien pourra savoir que le déséquilibre fondamental, c'est l'orgueil. Ensuite, c'est la vanité. Ensuite, c'est la concupiscence. Alors là, vous voyez, je lance une gifle à Freud.
Oui, ça ne va pas l'aider dans son art en tant
que...
Ça ne va pas l'aider dans son
art. Oui, ça va l'aider. Ça va l'aider. Il va regarder les conséquences de l'orgueil dans le déséquilibre humain. Alors, là, évidemment, vous voyez, la théologie ne donne pas de principe propre. Il faut le découvrir. Le déséquilibre sur le corps, le plus fondamental, provient d'orgueil. Et le médecin va chercher le moment où l'orgueil va déséquilibrer le corps. Il ne cherche pas l'orgueil. Ça, c'est pas lui qui cherche. Mais il sait qu'il y a ça. Il sait qu'il y a un déséquilibre qui provient de la vanité. Il sait qu'il y a un déséquilibre qui provient de la concupiscence. Il y a trois sources de déséquilibre. Alors, il devra hiérarchiser ça et voir quel déséquilibre est fondamental. Et ça, un non-chrétien ne peut pas le dire.
Ce qu'il verra, c'est la santé avant tout.
Quoi ?
Parce que le chrétien, c'est la santé.
Il cherche. Le médecin étant présent, vous n'allez pas voir le médecin quand vous êtes en bonne santé. Vous allez voir un médecin quand ça va plus. C'est pour ça que le médecin ne voit que des gens, que des hommes qui ne vont plus bien. Toujours, il voit toujours le déséquilibre de l'homme. Toujours, ça c'est sûr. Et il essaiera de saisir quel est le point fondamental de ce déséquilibre. Il peut dire, en tant que chrétien et en tant que théologien, qu'il y a une source de déséquilibre qui est l'orgueil. Je me souviens de mon cher ami Floy, en Suisse, président des homopathes en Suisse. Tout le temps, il avait le souci de regarder les déséquilibres de l'orgueil. Quels sont les déséquilibres qui viennent de l'orgueil? Quels sont les déséquilibres qui viennent de la grosse vanité? La grenouille qui va devenir aussi grosse que le bœuf. C'est quand même une maladie pour la grenouille. De devenir aussi grosse que le bœuf. Et elle souffre tellement qu'elle éclate. Alors à ce moment-là, elle va chez le médecin. Tant qu'elle se gonfle et qu'elle continue de marcher, elle ne voit pas qu'elle est malade. C'est quand elle éclate. Là, c'est l'éclatement des conséquences du péché originel que le médecin voit. C'est pas commode. Et il y a quand même ça. S'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de déséquilibre, il n'y aurait pas eu de maladie. C'est quand même très important de regarder ça, ça fait partie. Vous voyez, ça fait partie. Vous pouvez comprendre que l'art, il y a un art chrétien. Et la différence de la science. La science n'est pas chrétienne. L'art est chrétien. Parce que l'art touche plus profondément les principes du corps et de l'équilibre humain. Tandis que la science cherche des lois. C'est très curieux ces choses-là. Je crois que c'est très important pour nous, vous voyez, de comprendre ces choses-là. Et nous comprenons avec la philosophie de la matière, nous comprenons le point sur lequel nous regardons le corps humain. En tant qu'il est lié au monde physique. Et donc, il faudra nécessairement faire un chapitre dans la philosophie de la matière. Quel est le lien du corps humain et du monde physique? Ce qu'Aristote n'a pas fait. Et c'est peut-être là où intervient le point de vue du lieu. L'insertion. On verra ça. C'est très important. Donc vous voyez les deux points de vue sur lesquels nous regardons la naissance de la philosophie de la matière. Je mets en troisième point, ceci est particulièrement important pour nous, comme c'était particulièrement important pour Aristote. Aristote se trouve en face de Platon, nous le trouvons en face de Hegel. Hegel ne comprend pas la matière. Elle est vaporisée dans la philosophie hegelienne. Il ne comprend pas ce qu'est la matière. Et il ne peut pas la comprendre. La dialectique ne peut pas atteindre la matière. Seule une connaissance analogique atteint la matière. Et alors là, il y aurait tout un appendice extrêmement intéressant à faire. Plan critique. La connaissance dialectique ne peut rien dire de la matière. Pourquoi? Parce que la matière est pure puissance. Donc je ne peux pas la connaître dialectiquement. Pas de mouvement dans la matière. La matière est pure puissance. Mais analogiquement, je peux la connaître. Je la connais par la forme, en fonction du composé, et en fonction du mouvement. Alors, je la connais à partir de... Je n'ai pas de connaissance directe de la matière. Vous n'avez jamais touché la matière. Vous avez touché des rayons sensibles. Mais la matière comme telle est géante. Seule l'intelligence la connaît. Et comme seule l'intelligence connaît la nature. Seule l'intelligence connaît la matière. Donc, je suis obligé d'inférer la matière. Là, il y a l'inférence. L'inférence première radicale de toute la philosophie de la matière. De toute la philosophie de la nature. À partir des déterminations corruptives du monde physique, je pose la matière. Alors voyez tout de suite la différence. Kant fait de la matière une condition sine qua non. C'est très très joli du reste. Et c'est très intéressant. Il fait de la matière une condition sine qua non. Ce qui permet à Hegel de la relativiser. La condition sine qua non du devenir. La matière n'est pas une condition sine qua non. Elle l'est, si vous voulez, mais elle est beaucoup plus que ça. Elle est un principe fondamental. Parce que je ne peux pas fonder une philosophie sur une condition sine qua non. La condition sine qua non est toujours extrinsèque. Elle n'est pas intrinsèque, elle ne détermine rien. Mais le jour où je fais de la matière une condition sine qua non, je ne peux plus connaître vraiment la matière. Elle n'est plus intégrée dans une philosophie. Et donc le philosophe s'en désintéresse. C'est ce que fait Hegel. Mais Kant permet Hegel. Parce que autrement, une philosophie de la matière qui est vraie empêche d'être idéaliste. Parce que la matière, ça ne provient pas de mon esprit. C'est au contraire ce qui est l'obstacle à l'esprit. La matière est source d'inintelligibilité. La matière est source du hasard, cause errant, comme matière. Et donc, c'est ce qui s'oppose constamment à un homme.